Chapitre 6. Ni le gardien de nuit ni le barman ne furent d'un quelconque secours. Le gardien de nuit se rappelait avoir essayé de joindre la chambre de Mademoiselle Keane au téléphone juste après minuit et ne pas avoir obtenu de réponse. Il n'avait pas remarqué si Monsieur Bartlett était entré ou sorti de l'hôtel. Par une nuit clémente, beaucoup de gens étaient allés se promener. De plus, il y avait des issues secondaires dans le couloir et dans le grand hall. Il pouvait garantir que Mademoiselle Keane n'était pas passée par la porte principale. Mais si elle avait quitté sa chambre, située au premier étage, il y avait un escalier juste à côté et une porte au fond du couloir qui donnait sur la terrasse latérale. Elle pouvait aisément être sortie par là sans se faire voir. Cette porte n'avait pas été verrouillée avant la fin de la danse à 2 heures du matin. Le barman se souvint d'avoir vu M. Bartlett au bar la nuit précédente, mais ne pouvait dire à quelle heure. Vers le milieu de la soirée, estimait-il. M. Bartlett s'était assis au fond et lui avait paru mélancolique. Il ne savait pas combien de temps il était resté là. Il y avait eu beaucoup d'allées et venues de clients de l'extérieur, aussi était-il incapable d'être plus précis. Au moment où ils quittaient le bar, ils furent accostés par un garçonnet de 9 ans environ. Tout excité, il s'adressa immédiatement à eux.
« Dites, c'est vous les policiers ? Moi, je suis Peter Carmody. C'est mon grand-père, Monsieur Jefferson, qui a téléphoné à la police au sujet de Ruby. Vous êtes de Scotland Yard ? Au fait, ça vous embête pas que je vous parle ?»
Le colonel Melchett semblait sur le point de l'envoyer promener, mais le surintendant Harper s'interposa. « Pas du tout, mon petit, » lui répondit-il d'un ton bienveillant. « J'imagine que cette histoire t'intéresse. »
« Je veux, elle m'intéresse. Vous aimez les romans policiers ? Moi, j'adore. Je les lis tous. Même que j'ai des autographes des Dorothy Sayers, Agatha Christie, John Dickinson Carr et H.C. Bailey. Ce crime-là, il va passer dans les journaux ?»«
Pour ça, tu peux être tranquille, » répondit le surintendant.
« Parce que vous savez, je retourne à l'école la semaine prochaine, alors je vais raconter à tous les copains que je la connaissais bien, la victime. Vraiment bien !»«
Et comment tu la trouvais ?»
Peter réfléchit un moment. « Bof, elle me plaisait pas trop. Je la trouvais plutôt cloche. Maman et oncle Marc, ils l'aimaient pas beaucoup non plus. Grand-père, lui, si. C'est elle seule. Au fait, il veut vous voir, grand-père. Edwards est en train de vous chercher. »
Alors comme ça, chuchota le superintendant sur un ton d'encouragement, ta mère et ton oncle Marc n'aimaient pas beaucoup Ruby Keane. Pourquoi ?
Oh, j'en sais rien. Elle était collante. Et ça leur plaisait pas que grand-père il en fasse tout un plat de cette fille. Moi, conclut-il gaiement, et je crois qu'ils doivent être contents qu'elle soit morte.
Le superintendant Harper le considéra d'un air pensif. Tu les as entendus dire ça ?
Pas exactement. Oncle Marc, il a dit « bon débarras ». Et maman, « oui, mais c'est tellement horrible ». Et oncle Marc a répondu que c'était pas la peine d'être hypocrite.
Les deux policiers échangèrent un regard. À ce moment précis, un homme d'allure respectable, rasé de frais, impeccablement vêtu d'un complet de serge bleu, s'approcha.
« Pardonnez-moi, monsieur. » Je suis le valet de chambre de Monsieur Jefferson. Il est à présent réveillé et m'a envoyé vous chercher. Il tient à s'entretenir avec vous. »
Ils montèrent de nouveau à l'appartement de Conway Jefferson. Dans le salon, Adélaïde parlait à un homme de haute taille qui arpentait la pièce d'un air agité. Il se retourna d'un coup pour voir les nouveaux arrivants.
« Ah, c'est vous! Heureux que vous soyez venu. Mon beau-père vous a demandé. Il est levé maintenant. Veillez à ce qu'il reste le plus calme possible, s'il vous plaît. Il est de santé fragile. C'est un miracle, vraiment, que le choc ne l'ait pas achevé. »
« Je ne le savais pas de santé si précaire, » observa Harper.
« Il ne le sait pas lui-même, » répondit Marc Gaskell. « C'est son cœur, voyez-vous. Le médecin a bien recommandé à Addy de lui éviter toute émotion, toute agitation excessive. Il a plus ou moins laissé entendre que la mort pourrait survenir d'une seconde à l'autre, n'est-ce pas, Addy ?»
Madame Jefferson confirma d'un hochement de tête. « C'est même incroyable qu'il s'en soit remis comme il l'a fait, » ajouta-t-elle.
« Un meurtre n'est guère un sujet apaisant, »
dit Melchett d'un ton sec. Mais nous prendrons toutes les précautions possibles.
Tout en parlant, il jaugeait Gaskell du regard. Cet individu ne lui plaisait guère avec sa mine arrogante et son profil d'oiseau de proie. C'était un de ces hommes sans scrupules qui se laissent d'ordinaire guider par leurs seuls instincts et que les femmes admirent trop souvent. Mais auquel je ne me fierai pas une seconde, pensa le colonel. Sans scrupules, la formule lui allait comme un gant. Le genre d'homme à ne reculer devant rien. Dans la vaste chambre qui dominait la mer, Conway Jefferson était installé à côté de la fenêtre dans son fauteuil roulant. Dès qu'on se trouvait dans la même pièce que lui, on sentait la puissance et le magnétisme de cet homme, comme si les blessures qui avaient amoindri son corps avaient du même coup décuplé sa vitalité. Avec ses cheveux roux qui commençaient à grisonner, ses traits rudes et énergiques, son teint fortement hâlé et ses yeux d'un bleu perçant, il était beau. Il ne présentait aucun signe de défaillance ou de maladie. Les rides profondes qui le sillonnaient étaient celles de la souffrance et non celles de la faiblesse. Un tel homme n'était pas du genre à se lamenter sur son sort, mais à l'accepter et à en triompher.
« Je suis heureux que vous soyez venu, » dit-il. Ses yeux vifs les examinèrent rapidement. « Vous êtes le chef de police du Redfordshire ?» demanda-t-il à Melchett. « Bien. Et vous, le superintendant Harper ? Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a des cigarettes sur la table à côté de vous. »
Ils le remercièrent et prirent des fauteuils.
« Je crois savoir, monsieur Jefferson, que vous portiez un intérêt particulier à la victime, » commença Melchett.
Un sourire ironique traversa le visage buriné.
« Évidemment. Tout le monde a dû vous parler de ça, enfin. Ce n'est pas un mystère. Qu'est-ce que mon gendre et ma belle-fille vous ont raconté ?»
Il regarda brièvement les deux policiers tour à tour. Ce fut Melchett qui répondit.
« Madame Jefferson ne nous a pratiquement rien dit, hormis le fait que le bavardage de cette fille vous distrayait et que vous en aviez fait votre protégé. » Avec Monsieur Gaskell, nous n'avons guère échangé plus d'une demi-douzaine de mots.
Conway Jefferson sourit.
Addy est une personne discrète. Et je lui en sais gré. Mark aurait probablement été moins délicat, lui. Je crois préférable, Melchett, de vous exposer moi-même certains faits en détail. C'est important pour que vous puissiez comprendre mon attitude. Et, pour commencer, il est nécessaire que je revienne au drame de ma vie. Il y a 8 ans, j'ai perdu ma femme, mon fils et ma fille dans un accident d'avion. Depuis, je suis comme un homme qui a perdu la moitié de lui-même, et je ne parle pas de mon triste état physique. Je ne vivais que pour ma famille. Ma belle-fille et mon gendre ont été très bons avec moi. Ils ont fait l'impossible pour remplacer ma chair et mon sang. Mais j'ai compris, récemment surtout, qu'ils avaient quand même à vivre leur vie. Vous devez donc comprendre que la plupart du temps, je suis un homme solitaire. J'aime les jeunes gens. Je prends plaisir à leur compagnie. Une ou deux fois, j'ai caressé l'idée d'adopter une fille ou un garçon. Au cours de ce dernier mois, je me suis lié d'amitié avec cette enfant qui est morte. Elle était d'un naturel, d'une ingénuité absolue. Elle me racontait sa vie, ses expériences, spectacles misérables, tournées provinciales, enfance avec papa et maman dans des taudis. Une vie tellement différente de tout ce que j'ai pu connaître. Et sans jamais se plaindre, sans jamais voir le sordide de cette existence. Juste une enfant simple, qui ne ronchonne pas, qui travaille dur, authentique, pleine de charme. Rien d'une dame, peut-être, mais... Dieu merci, pas vulgaire, et, quelle vilaine expression, pas bêcheuse pour deux sous. Je me suis de plus en plus attaché à Ruby, et j'ai décidé, messieurs, de l'adopter officiellement. Elle allait devenir ma fille légale. Voilà, j'espère, une explication satisfaisante à l'intérêt que je lui portais, et à mon intervention lorsque j'ai appris sa mystérieuse absence.
Il y eut un silence. Le superintendant Harper, d'une voix neutre qui ôtait tout aspect offensant à sa question, demanda « Pourrais-je savoir ce qu'en pensaient votre belle-fille et votre gendre ?»
La réponse de Jefferson fut immédiate.
Qu'aurait-il pu y trouver à redire? Il ne voyait peut-être pas ça d'un très bon œil. C'est le genre de situation qui éveille la jalousie. Mais ils se sont très bien comportés.
Oui, très bien.
Ce n'est pas comme s'ils avaient dépendu de moi, voyez-vous. Quand mon fils Frank s'est marié, je lui ai sur le champ fait don de la moitié de mes biens. Je crois très fort à ce principe. Ne faites pas attendre vos enfants jusqu'à votre mort. L'argent, ils en ont besoin quand ils sont jeunes, pas à 50 ans. De la même manière, quand ma fille Rosamund a tenu absolument à épouser un homme démuni, je lui ai octroyé une somme d'argent qui, à sa mort, est passée à son mari. Ça a simplifié les choses du point de vue financier.
« Je vois, Monsieur Jefferson, » dit le superintendant Harper. Sa voix exprimait pourtant une certaine réserve, ce qui n'échappa pas à Conway.
« Vous n'êtes pas d'accord ?»«
Je n'ai pas à émettre d'avis.
Seulement, l'expérience me dit que les familles ne se comportent pas toujours de façon raisonnable. »«
Sans doute, Monsieur Harper. Rappelez-vous pourtant que Monsieur Gaskell et Madame Jefferson ne sont pas à proprement parler de ma famille. Il n'y a pas de lien de sang. »
Effectivement, ce n'est pas pareil, reconnut le superintendant. Une lueur de malice passa dans les yeux de Conway Jefferson.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne m'ont pas pris pour un vieil imbécile.
Ce serait la réaction normale, après tout.
Mais je ne suis ni fou ni gâteux. Je connais mes semblables. Avec un minimum d'éducation et de vernis, Ruby Keene aurait pu tenir sa place n'importe où.
Excusez-nous de paraître aussi indiscret et inquisiteur, intervint Melchett. Mais il est essentiel que nous connaissions tous les faits. Vous vous proposiez d'assurer l'avenir de cette jeune fille, donc de lui attribuer une certaine somme d'argent. Mais vous n'aviez pas déjà agi en ce sens?
Je vois où vous voulez en venir, à l'hypothèse selon laquelle quelqu'un aurait pu profiter de la mort de Ruby. Eh bien non. Les formalités nécessaires à l'adoption légale étaient entamées mais non achevées.
Et s'il vous arrivait quelque chose ?
Fit lentement Melchett. Il laissa sa phrase en suspens, en forme d'interrogation. La réponse de Conway Jefferson ne se fit pas attendre.
Que voulez-vous qu'il m'arrive ? Je suis infirme, pas malade.
Je sais, les médecins adorent vous prêcher la modération avec des airs catastrophés.
La modération. J'ai une santé de cheval. Je suis bien sûr conscient des fatalités de l'existence. J'ai de bonnes raisons à cela, sacrebleu. L'homme le plus robuste n'est à l'abri de rien. Surtout à notre époque où un accident est si vite arrivé. Mais j'ai pris mes dispositions. J'ai rédigé un nouveau testament il y a 10 jours.
Ah ? Fit le superintendant Harper intéressé.
J'ai mis 50 000 livres en dépôt pour Ruby Keene, capital dont elle aurait pu disposer à l'âge de 25 ans.
Les yeux du superintendant Harper s'arrondirent, ceux du colonel Melchett aussi.
C'est une très grosse somme, monsieur Jefferson,
murmura presque le superintendant.
De nos jours, oui. Et vous en faisiez bénéficier une jeune fille que vous ne connaissiez que depuis quelques semaines ?
Un éclair de colère passa dans le regard bleu de Jefferson.
Dois-je toujours répéter la même chose ? Je n'ai aucune descendance de par le sang. Pas de neveu, pas de nièce, pas même de cousin éloigné. J'aurais pu léguer cette somme à une œuvre de charité. Je préfère que ce soit une personne physique qui en profite.
Il éclata de rire.
Cendrillon devenue princesse en une nuit. Ah, un parrain fée au lieu d'une marraine fée. Pourquoi pas? C'est mon argent. C'est moi qui l'ai gagné.
Avez-vous fait d'autres legs?
Demanda le colonel Melchett.
Une petite somme pour Edwards, mon valet de chambre. Le reste pour Mark et Addy, à parts égales.
Le reliquat, pardonnez-moi, se monte-t-il à une somme importante ?
Je ne pense pas. C'est difficile à chiffrer avec précision. Les valeurs ne cessent de fluctuer. Une fois déduits les droits de succession et autres frais, ils devraient se situer entre 5 000 et 10 000 livres.
Je vois.
Et ne croyez pas qu'ils aient été lésés.
Comme je vous l'ai dit, j'ai divisé mes biens au moment où mes enfants se sont mariés. Je n'ai conservé pour moi, en fait, qu'une très petite somme. Mais après la tragédie, il m'a fallu quelque chose pour m'occuper l'esprit. Je me suis lancé dans les affaires. Dans ma maison de Londres, j'ai fait installer une ligne directe reliant ma chambre à mon bureau. J'ai travaillé dur. Ça m'a aidé à ne pas penser, à me prouver que mon handicap ne m'avait pas complètement vaincu. Je me suis plongé dans le labeur. Sa voix prit une inflexion plus profonde, comme s'il se parlait à lui-même plutôt qu'à ses interlocuteurs. Ironie du sort, tout ce que j'ai entrepris a prospéré. Mes spéculations les plus folles étaient fructueuses. Si je jouais, je gagnais. Tout ce que je touchais se transformait en or. Clin d'œil du destin pour rétablir l'équilibre, je suppose. De nouveau, les rides de douleur apparurent sur son visage. Il se ressaisit et grimaça un sourire. Ainsi, voyez-vous, je pouvais disposer comme bon me semblait de l'argent que j'ai laissé à Ruby.
C'est indéniable, cher monsieur, s'empressa de dire Melchett. Nous n'en doutons pas un seul instant.
Bien, fit Conway Jefferson. Maintenant, à mon tour de vous poser quelques questions, si vous voulez bien. J'aimerais en savoir davantage sur cette dramatique affaire. Tout ce que je sais, c'est que cette pauvre Ruby a été trouvée étranglée dans une maison à une trentaine de kilomètres d'ici.
Exactement. Au manoir de Gossington.
Jefferson fronça les sourcils.
Gossington? Voyons, c'est la demeure du colonel Bantry.
Bantry? Arthur Bantry? Mais je le connais! Et sa femme aussi! Je les ai rencontrés à l'étranger il y a quelques années. J'ignorais qu'ils habitaient par ici.
Ça alors, c'est...
Il s'interrompit. Le superintendant Harper en profita pour glisser doucement. Le colonel a dîné ici à l'hôtel mardi dernier. Vous ne l'avez pas vu.
Mardi? Mardi... Non. Nous sommes rentrés tard, nous étions à Hardenhead et nous avons dîné sur le chemin du retour. Rubikin ne vous a jamais parlé des Bantry?
Demanda Melchett. Jefferson secoua la tête.
Jamais? Je ne crois pas qu'elle les connaissait. Sûrement pas, d'ailleurs. Hormis des gens de théâtre ou assimilés, elle n'avait d'acquaintance nulle part.
Il s'arrêta et demanda brusquement.
Eh, Bantry, qu'est-ce qu'il en dit?
Il n'y comprend rien. Hier soir, il était à une réunion de conservateurs. Le corps a été découvert ce matin. Il affirme n'avoir jamais vu cette fille de sa vie.
Jefferson opina du bonnet.
C'est vrai que c'est quand même extraordinaire.
Le superintendant Harper s'éclaircit la voix. Voyez-vous qui aurait pu faire une chose pareille?
J'aimerais bien! Sacré nom!
Les veines saillaient sur son front.
C'est incroyable! Inimaginable! J'irais même jusqu'à dire impossible si ça se n'était pas produit.
Il n'y avait aucun individu surgi du passé, aucun homme qui lui aurait tourné autour ou qui l'aurait menacé.
Je suis sûr que non, elle m'en aurait parlé. Elle n'a jamais eu de petite amie, c'est elle-même qui me l'a confié.
Tu parles, songea Harper, elle n'allait pas prétendre le contraire.
Conway Jefferson poursuivit.
Josie serait la première à savoir s'il y avait un homme qui lui tournait autour ou qui l'importunait. Elle ne peut pas vous aider?
Elle a répondu que non.
Le visage de Jefferson se rembrunit.
Je ne peux m'empêcher de penser que c'est l'œuvre d'un maniaque. La brutalité de la méthode, l'effraction dans une maison de campagne, le tout dénué de sens et de raison. Il y a des gens comme ça qui ont l'air normaux en apparence et qui attirent les jeunes filles, parfois des enfants, pour les tuer.
Des crimes sexuels, je suppose.
Oh oui, cela existe, approuva Harper. Mais nous n'avons connaissance d'aucun maniaque de ce genre qui sévirait dans le secteur.
J'ai repensé à tous les hommes que j'ai vus avec Ruby, conclut Conway Jefferson. Résidents de l'hôtel, personnes de l'extérieur, partenaires de danse. Tous paraissent aussi ternes qu'inoffensifs. Elle n'avait aucun ami attitré.
Le visage du superintendant resta de marbre. Mais sans que Conway parvienne à la déceler, une lueur dubitative persista dans son regard. Il était fort possible, estimait-il, que Ruby ait fréquenté quelqu'un à l'insu de Jefferson. Il ne souffla cependant pas un mot. Melchett lui jeta un coup d'œil interrogateur et se leva.
« Merci, monsieur Jefferson, » dit le chef de la police. « Ce sera tout pour le moment. »«
Vous me tiendrez au courant des avancées de l'enquête ?»«
Absolument. Nous restons en contact avec vous. »
Les deux policiers sortirent. Conway Jefferson se renversa dans son fauteuil. Ses paupières s'abaissèrent comme un voile devant le bleu immense de ses yeux. Il sembla soudain très las. Au bout d'une ou deux minutes, ses paupières clignèrent de nouveau.
« Edwards !» appela-t-il.
Le valet de chambre jaillit aussitôt de la pièce voisine. Il connaissait son maître mieux que quiconque. Les autres, même ses proches, n'avaient conscience que de sa force. Edwards, lui, n'ignorait rien de ses faiblesses. Il avait vu Conway Jefferson brisé, découragé, fatigué de la vie, momentanément vaincu par son infirmité et par sa solitude.
« Monsieur,
allez trouver Sir Henry Clisring. Il est à Melbourne, à Bass. Demandez-lui de ma part s'il peut venir aujourd'hui plutôt que demain. Dites-lui que c'est urgent. »